Eh bien, écoutez, donc, pour reprendre le cours de nos réflexions, je voudrais vous dire que l'exposé que je vais vous présenter, qui est en sandwich, en quelque sorte, entre deux éminents universitaires, ne peut pas reprendre cette métaphore, car on sait que dans le sandwich, c'est ce qu'il y a au milieu qui est le meilleur, en général. Et là, ça sera l'inverse. C'est un anti-sandwich. Parce que mon propos est modeste, naturellement. Il restera superficiel et allusif. Ce n'est pas le propos d'un chercheur. C'est le propos, disons, d'un praticien observateur qui, pendant presque 5 décennies, s'est consacré à l'enseignement des lettres et de la littérature. Je veux dire d'abord des remerciements à l'issue de cette longue carrière, car je viens d'entrer dans la phase de la retraite, qui, je l'espère, ne sera pas un retrait définitif. Des remerciements d'abord au ministère et à l'Inspection générale des lettres, qui a fait appel à moi dès le début de la réflexion de la mise en place institutionnelle de réseaux autour de l'utilisation de l'ordinateur en classe et en cours de français, et qui m'a permis donc en permanence de réfléchir à cette question et d'installer une dialectique que j'espère avoir été fructueuse entre la théorie et la pratique. Des remerciements aussi au CELSA, parce que c'est un des moteurs de la réflexion sur ces questions qui entourent les médias numériques. C'est un moteur qui est d'autant plus intéressant pour quelqu'un qui s'occupe de l'enseignement du français des lettres, qu'il sait prendre en compte cette dimension disciplinaire dans sa recherche sur les médias numériques. Et enfin, une troisième série de remerciements qui sont un peu généraux, mais peut-être affectivement les plus chargés, c'est le remerciement à tous les enseignants qui, dans la dernière partie de ma carrière, ont accompagné les actions, les initiatives que j'ai voulu promouvoir sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les écrits d'écran. Alors, ça sera à la fois modeste et immodeste, parce que mon exposé va être totalement subjectif. C'est mes convictions que je veux exposer ici, et à partir desquelles construire en quelque sorte, une provocation au débat, à la dialectique fructueuse que l'on a d'une façon beaucoup plus intéressante dans le cadre du présentiel, n'est-ce pas? Voilà. La conviction fondamentale sur laquelle je ne reviendrai peut-être pas toujours explicitement, mais qu'il faudra toujours voir en présupposé de mon propos, c'est que les médias numériques sont une nécessité dans la phase de développement qui s'impose après l'époque du militantisme, n'est-ce pas, en faveur des TIS, comme objet d'une réflexion critique dans l'enseignement. Donc ça, c'est une nouveauté. On a longtemps milité pour que l'ordinateur entre dans la classe, pour que l'informatique ne soit pas laissée hors champ scolaire de la part des professeurs de lettres. Aujourd'hui, sa pénétration est plus grande. Il y a des contraintes institutionnelles sur lesquelles je reviendrai sans doute, mais en même temps, il s'agit de développer une approche qui ne soit pas une approche de néophyte béat par rapport à ces outils dont on a parlé ce matin. Et c'est pourquoi d'ailleurs que, à la fois à cause des contraintes qui sont liées au temps qui m'est imparti et aussi au fait que je préfère exposer devant vous des choses peut-être moins controuvées et communes que des banalités. C'est pour cela que je vais souvent être à contre-courant des idées admises communément sur les environnements numériques. Alors, si vous voulez, il y aura trois temps majeurs dans mon exposé. Un temps consacré à la description de quelques éléments de contexte où vous allez reconnaître des choses qui ont déjà été dites ce matin. Un deuxième temps qui essaiera de, à partir de là, de définir quelques risques et enjeux à la lumière de ce contexte. Et un troisième temps où j'aurai la fatuité de proposer les thèses qui sont les miennes, accompagnées de quelques exemples de pratiques qu'elles gouvernent et qu'elles éclairent. On fera peut-être d'ailleurs une petite conclusion, si j'ai le temps, sur l'oral, parce que il y a une écriture de l'oral maintenant à cause de... C'était un des aspects qui était évoqué ce matin en fin de débat. Alors, quelques éléments de contexte. Tout d'abord, un premier point qui est souvent tenu comme... ignoré, en particulier dans le monde de l'enseignement, c'est que les médias numériques s'insèrent dans la sphère marchande et que cette sphère marchande développe à leur propos une rhétorique mercatique. Je vais très rapidement, puisque Emmanuel Souchier a bien insisté ce matin là-dessus, mais je pense que c'est un point fondamental, puisqu'il pose le problème de l'intervention de l'école dans un produit qui n'a pas été conçu ni réalisé par et pour l'école. Et donc, il y a là quelque chose qu'il faut vraiment bien se mettre en tête, parce qu'il y a aussi toujours des effets tendanciels pour la négation de ce caractère marchand des médias numériques. Je pense en particulier à tout ce qui se développe comme idéologie autour du shareware et de l'open source, et qui, à mon avis, si cela a bien entendu de l'intérêt, à mon avis, place les gens qui y croient trop dans une position d'esquiver ce qui est la grande détermination sociale de la diffusion de masse des médias numériques. Alors, quelques éléments autour desquels s'enroule le discours idéologique des vendeurs. Hein. J'en ai noté quelques-uns. Là, évidemment, il n'y a pas absolument exhaustivité, vous le pensez bien. Alors, le premier, c'est le concept de naturalité qui est en permanence mis en avant dans le discours marchand, à savoir que, en quelque sorte, l'écran, c'est une façon d'entrer en contact avec les autres et de diffuser sa pensée, de s'exprimer, de recueillir l'information, etc., sans qu'intervienne une médiation. Si l'idéologie rousseauiste de la transparence et de ce point de vue-là, il y a, je crois, à bien prendre en compte, parce que je veux aussi avoir une lecture critique de ce que je critique, n'est-ce pas, bien prendre en compte le fait qu'il s'agit, mais ça, je crois que la conférence d'Emmanuel a largement dessiller les yeux qui auraient eu besoin de l'être, un substrat culturel d'une épaisseur inouïe concernant les médias numériques. Donc, loin d'une naturalité, nous sommes au contraire au plus profond d'une culture accumulée et dont nous verrons quelques aspects après. Deuxième point, ça concerne l'interactivité. On dit beaucoup que il y a une réelle interactivité dans ces objets, qu'il y a une possibilité, donc contrairement aux médias télévisuels par exemple, il y a une possibilité d'interaction entre l'émetteur et le récepteur qui peuvent changer alternativement de posture. Alors, c'est sans doute un tout petit peu plus vrai, néanmoins, je le dis tout de suite, il y a des situations où, malgré l'étiquette, alors j'espère ne pas dire le contraire de ce que dira Madame Marslov tout à l'heure, il y a des situations où, malgré l'étiquette, on est en contradiction avec cette idée d'interactivité. Je pense au tableau blanc dit interactif. Quand on le voit utilisé en classe, si l'enseignant ne prend pas garde à mettre en place les moyens d'une interactivité concertée, réfléchie dans sa démarche pédagogique, on observe le contraire de l'interactivité. C'est-à-dire que le tableau blanc dit interactif devient le moyen, je dirais contraignant, hein, d'un enseignement magistral. Et loin donc de réduire simplement l'interactivité, le tableau blanc quelquefois l'inhibe. Donc voilà pour ce point-là. La convivialité, le mot conwivium, ça veut dire vivre ensemble. Enfin, ça désigne un endroit où on est en train de vivre ensemble. Et donc, qui dit vivre dit chair un peu, n'est-ce pas? Et donc, cette convivialité également est une convivialité dont il faut interroger par certains de ses aspects le caractère factice, puisque désincarné, ce qui ne veut pas dire immatériel, bien évidemment, vous l'avez compris, désincarné dans la relation de personne à personne. Enfin, dernier point, c'est que on en parlait ce matin, donc j'y reviens très rapidement. Ces outils permettent une publication démocratiquement facilitée. N'est-ce pas? N'importe qui peut publier n'importe quoi, n'importe où, sur le web. Hein. Et pas que sur le web, d'ailleurs. Mais enfin, je donne cet exemple-là, puisque ça fait immédiatement une diffusion potentiellement planétaire à des écrits qui, d'habitude, pour reprendre l'expression du 18e et du 17e et du 18e siècle, ne seraient pas sortis du cabinet. N'y voyez pas un jugement de valeur par rapport à la qualité de ses écrits. Donc, la publication démocratiquement facilitée, c'est aussi une mise en crise, ou au moins en question, de l'auctorialité. C'est-à-dire de celui qui, comme auctor, c'est le sens du mot latin, garantit ce qui est écrit dans son authenticité, dans sa valeur, dans sa vérité. C'est aussi, disons en passant d'ailleurs, que la notion d'auteur et cette notion de garantie est une conquête historique qui est liée au codex, hein, à l'apparition du codex. Je ne m'étends pas là-dessus, on pourra éventuellement redire des choses dans le cadre des questions. C'est aussi la mise en cause des experts du texte. On en parlait ce matin, du traitement de texte à sa publication. L'activité éditoriale, finalement, n'a plus besoin de l'éditeur. Quand on a publié des livres, on sait quelle est l'importance, justement, des choix éditoriaux, des lignes éditoriales, du dialogue que l'éditeur entretient ou le directeur de collection, pour prendre cet exemple, puisque moi je suis directeur de collection d'une collection du CRDP, du CNDP, je veux dire, entretien avec ses auteurs. Et comment, finalement, il y a un produit collectif de réflexion. Et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit de la typographie, de l'investissement de l'image du texte et de toutes ces techniques qui ont été longuement élaborées au cours de l'histoire de l'écrit. On pourrait naturellement trouver d'autres aspects encore à énumérer, mais j'arrêterai ici mon énumération. Alors, autre élément de contexte, en général, on l'a vu ce matin, il y a le discours mercatique, etc., produit une conséquence, c'est-à-dire qu'il génère une doxa conceptuellement vacillante. Alors, je vais donner quelques exemples possibles. C'est-à-dire que, en toute rigueur, j'introduirai déjà la chose en disant que on a parlé, par exemple, de société de l'information. Or, le mot société dans ce cas-là, que désigne-t-il ? Quelle est l'alliance sur laquelle repose cette société-là ? Hein, puisque, revenons aux origines, le mot société vient de socius, c'est l'idée de s'allier. Bon. De quelle société s'agit-il ? Et de l'information, de quelle information s'agit-il ? Qu'entend-on par information ? Quelle est la cible culturelle de ce concept, etc. Donc, voilà un exemple pour introduire d'autres aspects, comme par exemple le fait que très souvent les médias informatisés, qu'on appelle d'ailleurs encore maintenant à l'éducation nationale des technologies de l'information et de la communication, les médias informatisés sont réduits à des technologies, c'est-à-dire à tout le substrat technique dont Emmanuel Souchier a beaucoup parlé ce matin, c'est-à-dire à la fois la machine elle-même, l'objet technique, électrique et électronique, et peut-être, mais d'une façon moindre, également une partie du soft. Hein. C'est cette façon d'aborder les choses évacue justement le contenu dans la représentation de la pensée commune, dans la représentation mentale que la pensée commune a de ces objets, évacue le caractère culturel, linguistique, le caractère textuel, qui est, comme on l'a vu ce matin, une des contraintes d'usage de ces technologies. Alors, l'énumération pourrait être plus longue. Il y a aussi confusion sur des notions différentes. Numérique, informatique, virtuel, immatériel sont mis en couple d'opposition ou en couple de différence, alors que, a priori, on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Mais là encore, il y a une tendance un peu profonde. Si je prends le couple numérique-informatique, la nouvelle fortune du mot numérique par rapport à informatique fait reculer la présence implicite de l'humain. Quand on parle d'informatique, il y a information, et l'information est forcément l'évocation d'une circulation de pensée entre des humains. Le numérique, c'est simplement le fonctionnement au cœur de la machine. Donc c'est bien toujours cette tendance à, un fétichisme de l'objet, hein, qui s'inscrit là. d'une façon assez paradoxale, puisque cette idée est une idée marxiste et elle est reprise à son compte largement par le discours des publicitaires. Je m'appesantis pas sur virtuel immatériel, on a beaucoup parlé ce matin de ces notions-là. Il y a des dichotomies également abusives, celle-là qui m'intéresse peut-être plus nettement dans la mesure où je parle comme professeur de lettres et de français. On a très souvent, c'était le cas par exemple tout récemment dans le colloque sur les métamorphoses du livre et de la lecture à l'heure du numérique, on a très souvent la mise en avant d'un espace clos, humain, l'oreiller, n'est-ce pas, de Proust, etc., avec le livre, donc quelque chose qui a sa chair, etc., etc., et de l'autre côté, un espace infini, vague et confus, qui est celui de ce qu'on trouve sur les réseaux. Hein. Or, la notion d'abord, le livre n'est pas clos. S'il est clos, il ne sert plus à personne. Il faut ouvrir le livre, si j'ose ainsi m'exprimer. Hein. Et d'autre part, il y a un principe de finitude dans les réseaux. Le principe de finitude qui est celui des sites, qui est celui des langues, qui est etc., etc., etc. Donc, l'infini n'est pas pour reprendre l'expression aristotélicienne, ce n'est pas l'accident du livre. Voilà. Et donc... il faut voir aussi que il y a là naturellement une espèce d'un autre côté, celui des sectateurs des médias numériques, si j'ose ainsi m'exprimer. L'opposition est relayée, mais dans un sens positif, c'est-à-dire le livre comme élément borné, je dirais cette fois, et le numérique, l'espace numérique comme ayant au moins un des attributs du divin. Donc voilà, hein, savoir trouver une place plus juste dans tous ces éléments de confusion qui traînent dans les représentations mentales. Alors, quelques mots maintenant sur les impensés du texte dans le cours de français, comme élément de contexte. D'une façon très étrange, très souvent, il est difficile d'obtenir d'un professeur de français ou d'un professeur de lettres la définition précise de ce qu'est un texte, d'une part, et d'autre part, de ce qu'est la lecture, les processus de lecture. Il y a une ignorance de ce que sont les processus de lecture et par voie de conséquence, une ignorance de ce que sont les processus d'écriture, qui en sont en quelque sorte la continuité, la deuxième face diverse mais continue. Je reviendrai sur ces notions de continuité, vous allez voir. Alors, par exemple, donc, je vais assez vite. Le premier impensé, majeur, c'est que dans le cours de français, on ne pense, pour ainsi dire, jamais le texte comme étant l'objet d'une activité économique. Alors, certes, dans les programmes de lycée, ceux de 2000, hein, c'est tardif quand même. Ceux de 2000 et ceux qui entrent en vigueur cette année, il y a un effort pour attirer l'attention des professeurs de lettres sur cet aspect-là, puisque il y avait la rubrique « Écrire et publier », hein, dans les programmes de 2000, et que maintenant il y a dans les enseignements d'exploration, littérature et société, qui développe vraiment d'une façon très importante cette problématique autour de, comment dirais-je, de la société et du texte avec toutes les dimensions sociales du texte. Deuxième aspect, il y a en général une axiologie confuse ou discutable des équivalences ou des primats concernant le texte. C'est-à-dire que les objets textuels sont rarement pris comme des objets équivalents d'études. Je donne un exemple. Il y a une hiérarchie du livre et de la littérature en haut de l'échelle des valeurs. Et ensuite, tout se dégrade, si j'ose ainsi m'exprimer, du point de vue de la représentation du texte. Et je ne parle pas des modes d'emploi ou des notices qui accompagnent les médicaments sur lesquels quelqu'un qui est vice-président de cette région a fait couler beaucoup d'encre. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cela affecte également le texte oral, si j'ose ainsi m'exprimer, et le texte écrit. Là aussi, il y a une hiérarchie qui est une hiérarchie préjudiciable, me semble-t-il, aux apprentissages, dans les deux cas. Enfin, il y a une faible présence dans la façon dont le cours de français s'organise des pratiques sociales et culturelles extrascolaires. Les partenariats sont très peu nombreux. Souvent, le professeur de français se tient dans la position, je vais prendre des comparaisons au vocabulaire de la chevalerie, de la forteresse assiégée ou du Don Quichotte. Il a une cécité concernant la circulation des textes dans le social, la trivialité, dirait mon frère, hein, et de la culture, et une faible prise de conscience des phénomènes de médiation dans le corps social. Du coup aussi, cela interdit très souvent une prise en compte dialectique et critique de l'univers culturel des jeunes, qui est rejeté en bloc, et sur lequel il faudrait faire fond pour pouvoir instruire justement la jeunesse et la faire grandir vers une meilleure culture. Voilà. Oui, l'infraordinaire. Travailler aussi sur l'infraordinaire, comme disait Emmanuel Souchier ce matin, n'est-ce pas, dont l'existence est occultée à l'acteur, et comment donc on passe d'une démarche consciente dans une opération mentale à cette entrée dans l'infraordinaire qui automatise des processus de pensée plus ou moins performants. Alors, à partir de là, quelques mots sur les risques et enjeux. Ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel Souchier a évoqué le discours d'escorte, hein, qui accompagne la mise sur le marché des objets. Hein. Alors, ce discours d'escorte a comme conséquence, hein, de mettre en péril des acquisitions décisives aujourd'hui et demain. Hein. Par exemple, alors j'en ai donné, c'est très vaste, mais d'abord par exemple, la culture littéraire. Qu'est-ce que j'entends par culture littéraire ? Si vous voulez, en paraphrasant Lucien Goldman, dont je pense que c'est un des grands théoriciens justement de de la littérature, je dirais que la culture littéraire, c'est la capacité de prendre en compte la communication d'une vision du monde dans une cohérence parfaite entre la vision du monde et le style. À un moment donné, par un individu singulier qui est un auteur qui va permettre cette cristallisation de cette vision du monde. Alors par exemple, bon, vous connaissez tous peut-être Le Dieu caché de Goldman, mais par exemple, Racine, c'est l'exemple même de ce moment de, j'allais dire de grâce, puisqu'il était janséniste de formation, ce moment de grâce où se rencontre une vision du monde, un style, une esthétique, le classicisme, et un genre, la tragédie. Hein. Et donc, il y a toujours, c'est un corollaire très important qu'expose Goldman, il y a toujours, par rapport au phénomène de la littérature, une décantation historique à attendre. On ne sait pas aujourd'hui, n'est-ce pas, qui, parmi tous les auteurs qui publient aujourd'hui, tous les penseurs qui diffusent leur réflexions, on ne sait pas qui aura rencontré la vision du monde prégnante dans une société qui est la nôtre, dans une part de cette société. Disons aussi que, de ce point de vue-là, il y a un enjeu qui est un enjeu non seulement par rapport aux médias, mais un enjeu aussi par rapport à la recherche littéraire. On est frappé, je vous ai dit que j'étais de parti pris, hein, ne vous étonnez pas, on est frappé par la faiblesse de la recherche épistémologique du champ des littéraires à l'université. Et par leur incapacité à définir leur savoir, leur méthode, etc., etc. Ouais. Sauf dans des conceptions que je dirais, bon, ça va être en ligne, mais tant pis, fossilisées. Ouais. La deuxième culture, mais qui est forcément liée dans le cadre de mon exposé, c'est la culture informatique. Or, déjà parler de culture informatique, c'est pour beaucoup dire un oxymore. Hein, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que il y a une nécessité absolue de mettre en place la maîtrise des objets par les utilisateurs, en particulier dans le cadre d'une auto-formation que réclame automatiquement la très rapide obsolescence des dispositifs et des outils. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire autrement que de mettre en place quelque chose qui va dépasser l'événementiel, le grain concret de tel ou tel dispositif hic et nunc. On est obligé de prendre de la hauteur de manière à pouvoir continuer à comprendre le fonctionnement des médias informatisés. Donc ça, c'est une première chose, c'est la capacité à suivre les évolutions. Mais il y en a une deuxième qui consiste à dire que dans cette culture informatique et dans cette maîtrise réside aussi la capacité à maintenir une approche critique de ces outils. C'est ce que dit bien, par exemple, l'idée de remise en cause, par exemple, par les architectes, etc., etc., d'une approche strictement phénoménologique et superficielle. Ça indique aussi, ça convoque aussi une notion dont Emmanuel Souchy a parlé ce matin et qu'on appelle la numératie, hein, c'est-à-dire cette culture autour de ce que le texte sur écran va, comment dirais-je, mobiliser. C'est lié aussi à l'extrême complexité des formes qui sont disponibles à l'écran. Là aussi, je vais très vite, puisque ça a déjà été évoqué ce matin, et donc je ne veux pas m'attarder. Si ça vous intéresse de revenir là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Donc, en conclusion de ces deux parties qui sont liées, je dirais que l'effort éducatif consiste donc à faire passer l'élève d'agi à acteur, d'une pratique du tâtonnement face à la machine. Vous les avez tous vus, hein, le tâtonnement au sens, non pas au sens intellectuel, mais au sens strictement corporel, n'est-ce pas, cette corporéité du tâtonnement sur les écrans tactiles, etc., etc. Donc, faire passer du tâtonnement, quand c'est intellectuel, c'est du bidouillage, face à la machine, à une position de surplomb dans l'univers des médias numériques, n'est-ce pas? Alors, quelques remarques par rapport à cette conclusion. Une première remarque. Dans ce cas-là, nous sommes de plein pied avec les objectifs ordinaires de tout effort éducatif. Il n'y a pas de changement notable de la posture de ce point de vue-là. Il y a toujours nécessité de mettre l'élève comme acteur de ses apprentissages. Je sais que, bon, tout le monde ne pense pas l'éducation sur ce mode-là, mais l'expérience prouve, en tout cas, je ne peux pas faire autrement que de présenter le postulat de l'expérience. L'expérience prouve que là, ça marche. Bon. On est de plein pied également, de par la nature même des médias numériques, avec l'expertise des professeurs de lettres, ou l'expertise qu'ils devraient avoir, puisqu'il s'agit de l'expertise du texte. Le texte, c'est par excellence l'objet de travail du professeur de lettres, l'expertise du texte, l'expertise des codes, des différents codes, et l'expertise des discours. Donc on a bien là quelque chose qui doit pouvoir s'intégrer d'une façon, sans douleur, indolore, d'une façon indolore à la démarche du professeur de lettres. Alors j'en viens à mes thèses illustrées de pratique. Alors la thèse majeure, c'est pas tout à fait l'ordre rhétorique, on dit souvent qu'il faut terminer par l'essentiel. Mais la thèse majeure à laquelle je tiens beaucoup, c'est qu'il y a un continuum de la textualité intermédiatique. C'est-à-dire que l'ordinateur n'introduit pas une rupture d'ordre, essentiel, d'ordre essentiel, nous revoilà chez Aristote, d'ordre essentiel entre ce qui se passe pour le texte hors ordinateur et sur écran. Hein. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire qu'il y a un consensus, par exemple, sur la continuité historique entre les différents supports de l'écrit. Hein, de la tablette d'argile sumérienne, au wolumen, au papyrus, au codex, du manuscrit, du gravé au manuscrit, du manuscrit à l'imprimé. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une continuité historique, et cette continuité historique bien saisie permet de mieux saisir aussi les spécificités de chacune des étapes. Je voudrais bien insister là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne pense pas le continuum, on ne peut pas penser la rupture. On ne peut pas la penser correctement. Parce qu'on pense, on isole un élément du reste et on le rend, comment dirais-je, inabordable par les mêmes outils mentaux que ceux qui permettent d'analyser ce qu'on s'est donné comme objet d'étude. L'exemple frappant, c'est les analyses des spécialistes du livre, par exemple, qui sont excellents sur le livre et qui disent des sottises sur tout ce qui concerne les écrits d'écran. Hein? Immatériel, infini, etc., etc. Je m'arrête là. Cette histoire de l'écrit hors écran, un deuxième enseignement à mon avis, non seulement elle marque les continuations, mais elle marque aussi les complémentarités et la capacité de coexistence des différents supports d'écrit. Par exemple, dans nos villes encore, il y a des écrits qui sont de l'ordre, hein, des inscriptiones latinas, hein, bon, latinae qu'on a soit à Rome, soit à Pompéi, etc., etc. Hein. On a bien donc cette permanence dans un espace public qui assimile ces différentes choses en progression. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette continuité, non seulement me paraît très fructueuse par rapport au texte lui-même, à l'objet, mais elle me paraît très fructueuse également par rapport à l'acteur qui est en interaction avec ce texte. C'est-à-dire qu'elle montre bien aussi quelle continuité opératoire s'opère entre celui qui lit et celui qui écrit. Comment il y a là aussi, à travers bien entendu une spécificité de chacun des modes linguistiques, si j'ose ainsi m'exprimer, hein, des types d'inscription linguistique, il y a une continuité, une interaction, une synergie. Alors, un premier exemple que je tire d'une expérience récente qui s'est déroulée depuis 2007, il s'agit des Assises internationales du roman que nous avons organisées à Lyon avec la Villa Gilet. Alors, je suis obligé d'aller très vite. Je vous renvoie éventuellement à l'affiche qui a été rédigée dans cette plaquette, justement pour le colloque auquel je fais référence concernant les métamorphoses du livre. Ce que je veux dire, c'est que il s'agit là d'un projet complexe qui met en jeu... Vous pouvez faire passer celui-là. D'un projet complexe, en même temps, voilà le résultat du produit. J'en ai qu'un exemplaire, mais parce que je n'avais pas de porteur. Donc, ça met en jeu la lecture par les élèves d'un roman contemporain, d'un auteur francophone ou de toute autre culture, hein. Une cinquantaine d'auteurs qui vient à Lyon au mois de mai et qui sont issus de toutes les cultures, aussi bien les cultures extrêmes orientales, il y a des Chinois, des Japonais, que les cultures les plus proches de nous, des Italiens, des Belges, et des Français aussi, bien sûr. Ça, l'international ne serait pas complet, bien sûr. Et donc, les élèves à l'intérieur du cours de français, les lycéens, dois-je dire, à l'intérieur du cours de français, se donnent comme objectif de lire ce livre, d'en construire une approche critique, en en utilisant des blogs, en entrant en correspondance par courriel avec les auteurs pour poser des questions, recueillir des remarques ou des réponses. Doivent ensuite écrire cette critique dans le moule très formaté cette fois-ci. L'architecte est très prégnant de la presse gratuite, lyonnaise, Lyon Plus pour être plus précis, n'est-ce pas, du groupe Le Progrès, avec un nombre de signes, avec des prescriptions quant aux images et ainsi de suite. Hein. Et in fine, doivent assister à la rencontre, à la table ronde où l'auteur sur lequel ils ont travaillé intervient. Donc on voit très bien qu'il y a là quelque chose de très fructueux dans la circulation intermédiatique. Le livre, le journal, les écrits d'écran, sous différentes instances, puisqu'on a le courriel, le traitement de texte, etc., etc. Bien entendu aussi, comme il s'agit d'auteurs contemporains, sur lesquels les enseignants n'ont pas beaucoup plus de savoir, souvent, hein, que les élèves eux-mêmes, il y a aussi tout le travail d'information via le réseau, de critique des sources, hein, surtout si les sources sont des wikis, hein, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est un exemple fructueux duquel les élèves sortent grandis et qui montre bien les synergies entre tout cela d'un point de vue pédagogique, puisque les élèves ensuite, pour beaucoup d'entre eux, découvrent qu'ils peuvent lire des livres, ce qu'ils ignoraient souvent, parce que le public scolaire, j'ai dit des lycéens, mais ça veut dire aussi des lycéens de lycée professionnel. Ça veut dire aussi des lycéens de section de techniciens supérieurs, très orientés vers les enseignements technologiques. Donc on a là, évidemment, un public qui n'est pas naturellement porté vers la lecture proustienne sur l'oreiller, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Cet exemple, en voilà un exemple, en voilà un deuxième, puisque le président de la République française voulait donner quelque écho à la présidence que la France exerçait sur l'Union européenne il y a quelques mois. Il a demandé à ses ministres qui d'ailleurs sont bien désignés d'une façon étymologique par le mot latin, c'est-à-dire ses serviteurs, ceux qui sont plus petits, minus, hein, bon. Il a demandé à ses ministres et en particulier à son ministre de l'Éducation, de mettre en place des initiatives qui accompagnassent cette présidence française de l'Union européenne. Et donc, j'ai mobilisé, je ne sais plus combien de classes, ça doit être marqué là derrière, vous verrez, une quarantaine d'établissements scolaires, une cinquantaine de professeurs, et 1500 élèves de la 6e à la terminale pour réaliser chacun un petit morceau d'un lexique vagabond de l'Europe littéraire actuelle, chaque petit morceau portant sur la lecture faite d'un des auteurs issus d'un des 27 pays européens. À ma connaissance, c'est la seule initiative en France où il y ait les 27 pays européens représentés chacun par un des hommes de leur littérature, un des écrivains de leur littérature. Vous pouvez faire, voilà. Donc tout cela, vous voyez bien, conduit à repenser les anciennes pratiques du texte. Là, on voit que l'aboutissement, c'est le livre. On part du livre, on travaille encore avec les écrits d'écran, et on retourne vers le livre in fine, avec des problèmes de, justement, des suggestions de mise en page, de maquettes, etc., etc., faites par les élèves. Un deuxième exemple, j'ai suivi depuis 2 ans l'expérimentation nationale des manuels numériques en 6e. Hein, puisqu'il y a une expérimentation sur une longue durée qui normalement devrait durer 4 ans, de la mise en place conjointement avec les éditeurs scolaires de manuels numériques dans la classe de 6e. Il y a un certain nombre de classes de 6e d'un certain nombre de départements qui doivent avoir mis en place ce qu'on appelle un ENT, c'est-à-dire un espace numérique de travail. Voilà. Alors, là encore, on voit très bien comment il est fructueux, les médias numériques réinterrogent des choses qu'on n'avait plus l'habitude d'interroger. Par exemple, sur le manuel numérique, le point de départ de l'expérimentation a été de réinterroger la notion de manuel. Qu'est-ce qu'un manuel? Qu'est-ce qu'on attend d'un manuel? Etc., etc. Et là encore, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi les continuités là, puisque finalement, le manuel scolaire était un document multimédia avant le multimédia. Hein. Quand j'enseignais dans les années 70, avec les manuels de Biette et Brighelli, par exemple, n'est-ce pas, chez Magnard, bon, il y avait justement cette multimédiation, les images, les graphiques, le texte lui-même, etc., etc. On avait donc bien, de ce point de vue-là, le renvoi des enregistrements, etc., etc. Donc le multimédia était antérieur au multimédia. Les manuels numériques, l'expérimentation des manuels numériques montre aussi qu'on a besoin, comme je le disais au début, d'avoir une définition précise des notions et des concepts et des objets, puisque il est apparu qu'un certain nombre d'enseignants attendaient du manuel numérique qu'il soit un espace infini, non clos, une espèce de fuite en avant vers des liens qui renvoient des liens, etc., etc., comme une espèce de formule éclatée, une connaissance stellaire, enfin, etc., etc. Hein. Donc, le profusionnel avant le qualitatif, et donc, il faut bien évidemment bien saisir les problématiques nouvelles qui sont posées dans ce cas-là et qui permettent quand même de rappeler peut-être que au niveau de l'école, on a intérêt à avoir des ensembles cohérents de savoir qu'à un moment ou à un autre, l'élève doit pouvoir faire le point d'une façon surplombante par rapport à ses acquisitions. Alors, j'ai dit suivant. Un autre aspect, je vois que le temps s'en va, ça fait presque 1 heure que je parle, n'est-ce pas? Il faudrait que je conclue. Bon. Très bien. Donc, surface et profondeur textuelle. Alors, vous savez qu'il y a une sorte de schématisme qui est très répandu, qui consiste à établir un lien univoque entre support d'écriture et type de lecture. Hein. On dit par exemple, sur Internet, c'est le butinage, c'est la lecture superficielle, c'est l'absence de mémorisation de ce qui a été lu. Et sur le livre, c'est la lecture profonde, c'est la mémorisation de ce qui est lu, etc., etc. Alors moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à cela. Quand on dit cela, il faut voir dans quel dispositif on a testé ces choses-là. Je vais donner un exemple. On propose par exemple aux élèves d'explorer un site. Donc on leur demande de butiner, bien sûr. Donc, hein, il faut qu'ils voient, qu'ils essayent d'explorer les coins, la surface, le centre, que sais-je, voir si la circonférence est partout et le centre nulle part. Et après, on dit, oui, mais ils n'ont pas retenu grand-chose quand on les interroge sur leur navigation. Mais ça faisait partie du dispositif expérimental premier. Et vous m'excuserez, mais j'ai été longtemps au fond des classes à regarder ce qui se passait chez les élèves du fond de la classe, justement. Et le butinage, c'était presque le meilleur qu'on puisse attendre des élèves du fond de la classe quand on était en train d'expliquer, par exemple, une tragédie de Racine. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu sommaire ce que je dis, mais ça, j'ai prévenu. Je crois qu'il y a des types de lecteurs, des types de lecture, qu'il y a une culture personnelle de la lecture et forcément de l'écriture qui a ses déterminations propres et qui n'est pas liée directement au support ou qui entretient avec les supports individuellement une autonomie tout à fait relative. Voilà. Alors, deux exemples de pratiques de classe où on a au contraire un travail qui est un travail en profondeur sur le texte, sur sa profondeur architecturale, sur ce que l'ancienne rhétorique appelait la dispositio. Hein. Donc, on utilise beaucoup les cartes mentales et la conception et les conceptions de plans avec ces logiciels qui permettent de visualiser, etc., etc. C'est bien une approche qui est une approche en profondeur, une approche de la structure et non pas de la surface, de l'organisation globale. C'est au service d'une écriture organisée, hein, ou qui voudrait l'être. Alors évidemment, on peut toujours me dire que c'est une approche qui... J'ai dit qu'il fallait tout le temps être critique. Hein. Donc c'est une approche qui est partielle. En effet, la carte mentale est taxinomique uniquement, c'est-à-dire qu'elle permet de constituer des ensembles thématiques et de les séparer, mais elle ne permet pas de poser une problématique et par conséquent, elle n'est pas il n'y a pas de génération spontanée du parcours argumentatif, par exemple. S'il s'agit pour la carte, l'utilisation des cartes mentales, s'il s'agit de vouloir initier les élèves, par exemple, à la discussion écrite, à l'argumentation, c'est un outil partiel. Il faut donc que le professeur de lettres complète cet outil de la carte mentale par une autre forme d'interrogation sur les intentions énonciatives, etc., etc. Ah, merci. Ah ben, je suis passé trop loin. Excuse me. Un autre travail qu'on fait et qui a l'intérêt, à mon avis, de mettre en place une dialectique fructueuse entre lecture et écriture, c'est la cartographie de sites. Hein? À la fois pour examiner comment fonctionne un site, comment il est fait, etc., et deuxièmement pour en écrire un. Donc je vais vite là, hein, vous m'excusez. Je reviens toujours sur cette idée force que je rabâche, à savoir qu'il y a une continuité et que là, on est dans une cohérence historique de l'écrit, puisque la carte... Hein, c'est avec la carte, c'est un élément justement de la gestion de l'écrit qui apparaît dans la fin du Moyen Âge, n'est-ce pas, au moment où les frontières commencent à s'ouvrir, qu'elles soient mentales ou géographiques. Dernier point, la textualisation généralisée de l'humain, du social, des différents codes. Alors, on en a parlé ce matin, je dirais plutôt en voie de généralisation. Alors, c'est par exemple le fait que, au lieu d'avoir des amis en direct, on les a par médiation facebookés, hein, par exemple. C'est une textualisation du rapport amical et affectif. Hein. C'est une textualisation intéressante aussi, dans la mesure où c'est le texte tel qu'il est conçu par les médias informatisés, c'est-à-dire c'est un texte multicode. Hein. Il y a des images, on s'expose, on s'exhibe, et en même temps, on écrit. Hein. Voilà. On voit bien qu'il y a, par rapport à ça, il y a un mouvement de refus, bien sûr, de contestation, qui s'exprime en particulier par la nécessité du présentiel, qui est souvent exprimée dans le cadre, par exemple, de la formation, n'est-ce pas ? Les gens veulent se rencontrer, car ils ont le sentiment que cette médiation textualisée par les écrits d'écran, finalement, est une médiation frustrante, partielle. D'autant que, en plus de ça, cette textualisation est une textualisation qui est souvent celle de la bribe. Hein. Sur Facebook, hein, c'est bribibus et compagnie. Hein. Donc, on a véritablement du texte, la forme, la peut-être la plus réduite, la moins riche de contenu. Le deuxième risque, on le sait maintenant, c'est aussi le risque de, vous m'excusez, je vais faire du Corneille, ce sera l'obscure clarté, non, c'est le risque de l'éphémère durable. Et donc, on a là, bien évidemment, quelque chose qui nécessite une formation. Une formation, une prise en compte réelle de cette textualisation généralisée ou en voie de généralisation. Alors, deux exemples qui permettent peut-être de mettre les choses au point dans l'esprit des jeunes gens. L'écriture à plusieurs mains grâce aux intranets et aux ENT. Hein. Cette capacité donc d'entrer en dialogue pour créer un objet unique, mais fruit d'un intellectuel collectif. Hein. Et cela, si j'ose ainsi m'exprimer, cela, c'est véritablement les médias informatisés qui en permettent le mieux la réalisation. À cause justement de la labilité, hein, du texte d'écran, hein, de l'écrit d'écran, qui permet justement des adaptations. En classe, par exemple, j'ai vu beaucoup travailler des professeurs qui avaient mis en place des groupes d'écriture à deux ou trois, à deux en général, hein, de manière qu'il y ait un dialogue, chacun sur un poste informatique, et après rassembler tout cela et conduire un dialogue avec la classe pour faire des choix, pour réfléchir à l'intégration de tel ou tel passage, pour faire une critique, critique dans le sens noble des choses, c'est-à-dire ce qui était bien, ce qui était à améliorer, etc., de ce qui avait été produit par les enfants, par les collégiens ou par les lycéens. Et ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous sommes au cœur du littéraire, car le plus intéressant à faire écrire, c'est le récit dans ce cadre-là. Puisque le récit, vous le savez, d'un point de vue ontologique, c'est la volonté de l'homme, c'est l'expression textuelle de la volonté démiurgique de l'homme, celui qui se met à la place de la divinité et qui assigne au déroulement du temps un début et une fin, hein, ce qui est normalement l'attribut de la divinité. Je suis l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas ? Et là, donc, par cet effort proprement ontologique et anthropologique, on a un objet sur lequel on peut discuter. On peut discuter d'une façon collective puisqu'il échappe en partie à la sensibilité individuelle. J'insiste un peu là-dessus, dans la mesure où il doit avoir une cohérence d'écriture, où il doit pouvoir être partageable en dehors d'un cercle, comment dirais-je, de gens qui entrent en vibration sur les mêmes choses. Alors bien entendu, la poésie est intéressante aussi, mais la poésie, on peut toujours objecter à un commentaire sur la poésie que c'était ça que je pensais et c'était pas autre chose, et si c'est mal dit, je m'en moque, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors que là, on ne peut pas, le récit, on ne peut pas, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre tout ce qui est structurant, tout justement l'architecte du récit, sur la temporalité, sur la spatialité. On parle aussi bien entendu des chronotopes qui articulent le récit, hein. Voilà. Un autre exemple, j'ai mis en place l'année dernière, alors comme deuxième volet concernant les assises internationales du roman, une expérimentation en collège où tout va se passer sur l'ENT du département du Rhône qui s'appelle laclasse.com, hein, et où donc la rencontre entre les classes, les élèves, les professeurs et l'auteur, autour d'un livre, va entièrement transiter par le biais des écrits d'écran. Voilà. Bon, là, bon, je terminais sur les architectes et la conception de documents, les blogs, etc. Bon, je vais aller faire très vite, hein, on en a bien parlé ce matin. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'idée générale qui doit conduire l'enseignant dans ces cas-là, c'est d'éveiller l'esprit critique par la pratique. Hein. Et donc, être apte à faire saisir dans la continuité textuelle, hein, de la page écran, comme on dit, n'est-ce pas, qui a des images, des listes, des cartes, des liens, etc., etc., du texte, du son. Maintenant, Dailymotion, on a aussi, etc., etc. Donc, de faire bien saisir la spécificité de chacun de ces types de langage et la spécificité du langage qui se crée par la rencontre et la textualisation au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le tissage de ces différents langages. Hein. Et donc, en effet, bien faire comprendre en particulier la présence des architectes, des architectes, excusez-moi, il est temps que je me taise, donc qui, comme le rappelait Emmanuel ce matin, renvoie une étymologie qui est le mot « arché » en grec, qui signifie « commencement ». Le premier mot d'ailleurs de la Bible de Luc, hein, ex arches en hologos. Au début était le Verbe. Donc le commencement, mais aussi le commandement. Hein, les archontes rois à Athènes, ceux qui commandaient. Donc en termes de conclusion, quelques ouvertures en dehors de l'écriture, puisque j'ai essayé de vous montrer les écrits d'écran. C'est rien, c'est mon iPhone qui vibre. Il se dit, tu devrais avoir fini, mon ami. Parce qu'il y a une conscience des machines. Non, je plaisante. Le continuum textuel s'étend à l'oral dans un rapport dialectique avec l'écrit. Hein. C'est très important à voir parce que maintenant on peut presque dire qu'on écrit le son, qu'on écrit la parole. Hein. On en parlait ce matin et je vais donner deux exemples qui sont aussi des exemples pédagogiques. Tu veux bien, oui. Voilà. On dialogue aussi avec les machines, vous avez vu, mais on tutoie les machines quand, et on ne leur parle que quand elles n'obéissent pas bien. Qui est la conception de diaporama pour un exposé, par exemple, hein. Là aussi, on est sur une écriture qui est une écriture en profondeur et qui a un débouché hors écrit, hein. Mais on a donc bien la possibilité de bien distinguer. Il y a une continuité, puisque le diaporama va servir de base à la performance orale. Et ça sera linguistique dans les deux cas. Mais ce diaporama qui est écrit, c'est de l'écrit, hein. Il faut appeler un chat, comme le rappelait Emmanuel Souchier ce matin. Ce diaporama est en rapport direct avec l'improvisation du texte oral, la parole, la fleur de la parole orale qui se développe sur le terreau de l'écrit d'écran, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un exemple. Donc, c'est très fructueux, par exemple, dans les classes, y compris les classes de collège pour la préparation des exposés, etc. Ça leur permet aussi d'intégrer des images, de textualiser, enfin, voilà. Un autre exemple, allez, c'est l'entraînement à la lecture ou à l'oral d'examen avec un enregistreur numérique. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des enregistreurs numériques qui permettent aux élèves, dans le silence de leur chambre ou de leur bureau, de s'entraîner à lire des textes à haute voix sur une prescription professorale, par exemple, hein, et à se réécouter puisqu'il y a eu inscription, si j'ose ainsi m'exprimer, il y a eu inscription dans le média informatique. Et d'ailleurs, vous savez, les médias informatiques écrivent la parole avec le jeu des la représentation des courbes du phénomène périodique qu'est le son. Et ils peuvent réintervenir sur ce texte à loisir, ce qui est très important parce que, justement, on parlait beaucoup de la temporalité ce matin. Il faut aussi que l'école reste l'école, c'est-à-dire qu'elle reste conforme à son étymologie. Le mot grec « skolē », c'est un mot qui signifie « loisir studieux ». Donc, l'idée de prendre son temps pour apprendre, pour se cultiver. Donc, dans cet exercice où l'élève peut pratiquer ses itérations, évaluation, nouvelle tentative, etc., etc., tout seul, il s'améliore. C'est absolument irréalisable dans une salle de classe avec 35 élèves. Et donc, on a ici un outil qui se met au service d'une autre forme de l'expression linguistique et qui permet au professeur, au lieu de corriger des copies, d'écouter des fichiers MP3, y compris d'ailleurs en enregistrant ses propres commentaires. Donc ça, ça vaut à la fois pour la lecture des textes canoniques, bien sûr, hein. C'est pas très facile pour les élèves, ce n'est pas très facile pour les élèves de lire un texte de Montaigne, par exemple, ou de Proust, mais on s'entraîne. Ou alors pour la prestation de, par exemple, de l'examen anticipé de français. Voilà. J'écoute donc vos réactions, vos questions, vos contestations.